L'économie du territoire se développe. Trois entreprises bénéficient de l'incubation Sarlatec Unitec. Sarlatec, le pôle d'innovation et d'accompagnement entrepreneurial de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, a lancé son incubateur début janvier 2024 et a choisi un partenaire clé pour accompagner les porteurs de projets sur le volet innovation technologique et innovation d'usage Unitec Bordeaux. Trois entreprises sont actuellement accompagnées par l'incubateur Sarlatec Unitec. L'incubateur Sarlatec Unitec vise à soutenir ces entrepreneurs locaux dans la concrétisation de leurs idées innovantes. Il met à la disposition des incubés un service et des outils indispensables au développement de leurs entreprises.
D'abord, Sarlatec est ouvert, ça marche, on enclenche sur l'incubateur, après les appels à projets de la fin d'année. D'abord, je vous remercie tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette structure, vous dire qu'on est aujourd'hui dans la réalité de ce qu'on a voulu créer avec Sarlatec. Alors bien sûr, grâce à vous, B2G, une plateforme, puis SIN Energy. Et alors, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est quand même des entreprises d'ici. Serjac, Saint-Geniès.
À Rouffignac.
C'est une belle chose, et je pense qu'en territoire comme les nôtres, en territoire rural, on a de ce point de vue-là, rien à envier aux grandes villes. À cause de la fibre, vous pouvez d'ici vous déplacer où vous voulez, participer à des conférences, revenir, être en contact, en visio, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc nous, on a une grande ambition. C'est bien sûr bien amorcé ici, Sarlatec, avec Unitec, parce que pour les startups, l'accompagnement est très important. Après, ça marche tout seul. Nous, on offre une structure, avec quelques moyens aussi. Donc je pense qu'on a vraiment bien amorcé la pompe. En fait, Sarlatec est en elle-même une startup aussi. Pour le territoire. C'est aussi aux entreprises, aux startups de dire ce qu'elles vont faire, comment elles vont réussir. On va les aider aussi sur le crowdfunding un peu, parce qu'ils auront besoin de moyens. On se projette vraiment dans le monde d'aujourd'hui, là. Et ça va aller très vite. Ça va très vite déjà, mais ça va aller encore plus vite.
La star aujourd'hui, c'est pas Sarlatec, c'est les entreprises qui sont incubées. C'est notre première promotion et on est très fiers de vous la présenter. Juste un petit mot pour Sarlatec, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un lieu qui a ouvert en septembre, qui est géré par la communauté de communes Sarlat-Périgord-Noir. L'objectif sur ce site, c'est de créer un lieu de création, d'innovation, de rencontre, d'échanges au bénéfice du développement économique du Périgord Noir. On est certes un territoire rural, on peut paraître parfois un petit peu loin de tout, mais on a des atouts, une qualité de vie, un cadre de vie à offrir à celles et ceux qui veulent travailler ici. Et puis on a essayé de doter ce territoire d'un outil qui permettra d'accompagner au mieux les entreprises innovantes qui sont ici ou qui veulent s'installer dans notre territoire. Sur Sarlatec, il y a plusieurs projets qui se développent. Donc le premier, c'est l'incubation, on va en parler, en lien avec Unitec. On a également de l'incubation dans l'économie sociale et solidaire en lien avec Émergence. On accueille aussi des publics un peu plus éloignés de l'emploi, puisqu'on a des ateliers qui sont réalisés par l'appel aux idées qui travaillent avec des bénéficiaires du RSA. On a un volet coworking qui fonctionne très bien, puisqu'aujourd'hui, on a un peu plus d'une trentaine de personnes qui sont inscrites. On a un petit peu de bureaux à la location qui sont loués aujourd'hui. Et on va développer deux nouveaux aspects. Donc, un Fab Lab, on est en train d'acquérir le matériel pour ça. Il y a déjà un petit peu de matériel qui est là. Il y a déjà des ateliers qui ont lieu le mercredi après-midi avec l'appel aux idées, mais on va acquérir d'autres matériels. L'idée, c'est toujours d'être au soutien du développement économique du territoire. Avec ce Fab Lab, aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à recruter. Les métiers de l'industrie n'intéressent pas forcément les plus jeunes. Et là, l'idée, c'est de les faire venir sur ce site pour qu'ils découvrent ces métiers-là de façon pédagogique. Donc, on s'adressera à un public scolaire, mais on s'adressera aussi à d'autres personnes qui veulent découvrir ces nouvelles façons de faire les choses avec ce Fab Lab. Et puis, on aura aussi, on espère, en tout cas, on est en train de travailler dessus, on va développer un aspect formation tout au long de la vie, mais aussi formation pour les plus jeunes, parce que là, notre ambition, elle est très simple. On est un territoire où on a un très faible taux de poursuite post-bac et donc c'est d'offrir sur place à des jeunes qui n'aient pas besoin d'aller sur Toulouse, Bordeaux, Limoges où les études peuvent être coûteuses, trouver sur place des formations diplômantes qualifiantes dans les métiers du numérique. Donc ça, on est en train de le développer. Et notre espoir, c'est de pouvoir proposer quelque chose à partir du second semestre de l'année 2024. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas Sarlatech, c'est notre première promotion de start-up incubé ici en lien avec Unitech. Unitech, vous savez, c'est un incubateur sous forme associative qui est basé sur Bordeaux, qui a été créé à l'origine sous l'impulsion du conseil régional d'Aquitaine à l'époque, qui aujourd'hui dépend de la métropole bordelaise et qui, pour la seconde fois uniquement, mais pour la première fois vers un territoire rural, va quitter le territoire de la métropole bordelaise. Je dis pour la seconde fois parce que la première fois, c'est avec La Réunion. Et la deuxième fois, et le premier territoire rural qui travaille avec Unitech, c'est nous et on est très fiers de ça. Donc on a lancé un appel à projet pour recruter nos startups à la fin d'année 2023. Et les trois entreprises qui sont présentes ici ont été retenues. SI Energy, qui... Et dans le domaine, on va dire, du développement durable, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des enjeux très forts sur cet aspect-là. Moi, ce que j'en ai compris, et je suis pas du tout technicien, mais que vous avez développé une solution qui permet d'utiliser l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques pour faire de l'eau chaude directement sur des ballons sans revenir sur le réseau. On a PitchMe qui offre des solutions de développement pour des startups, mais aussi pour tout autre type d'entreprise d'ailleurs, en matière d'organisation, de développement de projets. Et on a B2G qui est le plus local de l'État, qui est basé à Saint-Geniès et qui fabrique des réducteurs qui permettent notamment de faire du rétrofitage, c'est-à-dire de passer de véhicules thermiques à des véhicules électriques. C'est vrai pour l'automobile, mais il y a de très nombreux marchés qui s'ouvrent à eux. Tout ça aussi, on le fait en lien avec la French Tech Périgord, qui est un partenaire de Sarlatech et qui non seulement permet de communiquer sur Sarlatech en Dordogne, mais qui nous a aussi adressé certaines des entreprises qui ont été retenues quand on a fait le jury avec Unitech. Et le petit nouveau de l'équipe, elle était constituée depuis septembre par Rebecca Dain, qui connaît bien le tissu économique du Périgord Nord. Et on a depuis le 5 février, Cyril Delbos, qui fait un retour au pays et qui va suivre en particulier, avec Rebecca également, les entreprises incubées. Voilà, ça c'est notre équipe, notre Dream Team sur Sarlatech. La tech. Voilà, notre Dream Team est constitué, on est prêt à faire feu et en tout cas on est très content de ces 6 premiers mois de Sarlatech. Ça fonctionne déjà au-delà de nos petits espoirs, même si on ne s'était pas fixé d'objectifs quantitatifs.
Je me présente Carole Bory, donc avec mon père André. On est à la tête de SI Energy qui est en train de se créer en tant que SAS aujourd'hui. Donc je rejoins en fait en qualité d'associé. Mon père pendant 8 ans a porté le projet en tant qu'auto-entrepreneur afin de faire de la recherche et développement d'énergie solaire. Donc il a mis au point un nouveau procédé qui permet en fait de faire de la production d'eau chaude tout en étant donc autonome et en enlevant la partie polluante des systèmes existants qui sont donc les batteries d'accumulation. Ce système, il est un petit peu révolutionnaire dans ce sens-là et il apporte une vraie avancée aujourd'hui pour des ménages. Également, quand on voit la crise économique à laquelle on fait face aujourd'hui, au prix de l'électricité qui fait qu'augmenter, le fait de ne pas être relié à un réseau de distribution, ça fait justement qu'on devient un petit peu plus indépendant vis-à-vis de cette consommation. Et également, on a retenu que 50% d'une facture électrique aujourd'hui, elle est sur de la production d'eau chaude. Donc on pense qu'avec cette innovation, on aura un vrai impact sur la facture des ménages. Donc un vrai poids à mettre en avant dans cette transition écologique que l'État est en train de mener également. Aujourd'hui, on est en pleine industrialisation puisqu'on a finalisé le produit qui a fait l'objet de 3 brevets. Et aujourd'hui, donc, on est en phase d'industrialisation.
On part du panneau, mais un calculateur. De là, le calculateur, lui, nous dit, aujourd'hui, il nous dirait qu'on ne fonctionne pas parce que ça ne va pas bien. Lui, il est dans une cave, donc il ne sait pas s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, mais il sait calculer la puissance qu'ont les panneaux, la distance. C'est le principe. Donc, fonction de la puissance qu'on demande, il nous dit on fonctionne ou on ne fonctionne pas. Et on relie directement un ballon d'eau chaude. Derrière, on alimente une résistance d'un ballon d'eau chaude. Alors qu'il peut être couplé avec tout système aujourd'hui de production d'eau chaude. Donc nos concurrents sont nos amis en réalité. On leur apporte un plus, que ce soit du gaz, du fioul, pompe à chaleur, ce qu'on voudra. Tout ce qu'on va fabriquer en plus avec le soleil, c'est du gratuit. Donc c'est stocké dans un ballon. Au lieu de stocker l'énergie, si vous voulez, dans une batterie d'accumulateur, on stocke l'énergie dans l'eau chaude. Voilà le principe. Et comme en plus, les batteries, si vous voulez, dans le temps, elles ont un nombre de cycles de fonctionnement, suivant leur taux de leur niveau de charge et décharge, alors qu'un cumulus électrique, qu'on va appeler le classiquement, que tout le monde connaît, lui, il a un nombre de cycles quasiment illimité. Quand vous mettez ça, ça dure 20 ans, 30 ans, et on se fiche qu'il soit descendu à zéro de son énergie, alors qu'une batterie, si vous la videz complètement, son cycle de vie, il va diminuer à vitesse grand V. C'est ce qui fait la différence. S'il y a moins de soleil, si on n'a que 2 heures de soleil, on n'aura que 2 heures de production. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'on produit même en hiver. Parce qu'on n'est pas lié par les températures, on est lié juste par le taux d'ensoleillement ou d'éclairement. C'est ça qui fait toute la différence du système. Donc on a, si vous voulez, on a besoin d'un chauffe-eau qui va être de l'eau chaude sanitaire qui va être à 60 degrés, par exemple, réglé à la sortie d'une chaudière. Si dans la journée on a pu monter notre ballon qui est inséré avec l'installation à 40 degrés, la production de la chaudière elle aura juste besoin de rattraper les 20 degrés d'écart. Voilà le principe. En été, à partir du mois d'avril, on a fait des essais, nous. Si on est conscient aussi un peu économe, on va dire, il faut être dans une logique d'actualité et d'énergie. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on peut dépenser autant qu'on veut, mais si on met un bateau dans un ballon de 300 litres, par exemple, si on a 300 litres d'eau chaude, c'est que pour une famille de 4 personnes, vous ne manquerez jamais d'eau chaude. Voilà l'idée. Et donc ça, comme c'est monté en série, votre système, il ne fonctionnera pas. En gros, de avril au 15 octobre. Ça fait quand même une grosse plage de fonctionnement. Et donc ce petit calculateur, il a pris un temps fou à être mis au point parce qu'on a été frappé, comme tout le monde, par les 2 ans de Covid, par les composants électroniques, par tout ça. Et par une phase d'essai qui sont assez longues à réaliser, si vous voulez. Entre les essais laboratoires et les essais en réel, qui ne sont pas du tout pareils. Voilà, c'est là où on a été confronté à quelques difficultés pour la mise au point. Donc c'est un système qui est équipé d'un logiciel embarqué avec algorithme, en fait, tout c'est compliqué. Là, on peut industrialiser demain, on est prêt.
Mais le développement et la fabrication est faite en France. Et c'est vraiment une volonté de rester, nous, en local. Pour ce qui est du déploiement commercial, donc on a prévu de commencer par la Dordogne et ensuite de s'étendre sur la Nouvelle-Aquitaine. Nous, notre marché, on aimerait vraiment rester en Nouvelle-Aquitaine. Notre business model, il est basé sur du B2B, dans le sens où on va travailler directement avec des installateurs photovoltaïques qui sont qualifiés RGE, Cali PV, donc qui sont agrémentés pour pouvoir faire ce type de vente.
D'installation.
Et en fait, donc, ces installateurs donc, qui vont aller avec un client final qui donc, sera en B2C. Aujourd'hui, on sait que sur la France, on a 11 millions qui sont installés, dont un renouvellement annuel en France de 1 million de chauffe-eau. Si on remet ça en fait à la population, on sait que la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 9% de la population française. Donc aujourd'hui, on aurait un marché sur la Nouvelle-Aquitaine de 900 000 renouvellements de chauffe-eau par an. Donc on sait qu'à ce moment-là, quand le client final va avoir besoin de changer son chauffe-eau, son chauffagiste, son plombier va avoir une solution à pouvoir lui apporter. Donc nous, en fait, notre vision, notre démarche, elle est d'aller voir ces installateurs et de leur proposer en fait un produit qui vont pouvoir vendre en complémentarité. D'accord. Et donc pas uniquement vendre un chauffe-eau, mais de dire aux gens, aujourd'hui, on peut aussi vous faire votre eau chaude de manière plus économique et autonome.
À plus grande échelle, tout est applicable. C'est faire la vapeur à 400 degrés, le système. Voilà, donc ça peut être très intéressant. On n'est pas obligé de mettre un ballon de 300 litres. Je mets 3 litres d'eau, je mets 5 kW de puissance, même que d'un système photovoltaïque, je fais de la vapeur en 5 minutes.
C'est des histoires de puissance, en fait. La carte, elle a été pensée
après,
pour
l'installation. Le marché, il concerne... Il est pour tout le monde, on va dire. Il part du particulier au monde agricole. Ouais. À des gros consommateurs d'eau chaude, il peut être appliqué n'importe où. On touche tout public. Ouais. Ça a fait l'objet d'une petite étude de marché qu'on a essayé de regarder. Si c'est bien beau de fabriquer un produit, mais on va voir s'il a un débouché, parce que s'il n'en a pas... Alors, il y a autre chose qui va bien avec ce produit, c'est que l'énergie, on n'est pas obligé de la dédier qu'à l'eau chaude. Vous avez une panne électrique en pleine journée, il fait beau, parce que pour une raison X ou Y, ou après un orage, et vous avez envie de sauver votre congélateur, et on pourra aiguiller l'énergie fournie sur un congélateur ou un frigo. Toujours pareil, fonction de la puissance des taux d'ensoleillement, de la puissance d'installation. Donc c'est un calcul à faire au cas par cas, suivant ce qu'on veut faire.
Bonjour à tous, je m'appelle Justin et je porte le projet qui s'appelle PitchMe.tv, qui est une plateforme qui permet aux porteurs de projets, plutôt comme moi, plutôt que mes deux homologues qui sont assez tôt dans leur idéation, de faire confronter leur idée au feedback de professionnels et investisseurs. Donc ça pourrait ressembler à Qui veut être mon associé, l'émission, mais en ligne et communautaire. Pour vous donner un exemple, l'application aujourd'hui elle est disponible sur le web, vous pouvez y accéder, déposer votre projet et indiquer dans quel cadre est-ce que vous recherchez aujourd'hui l'expertise de quelqu'un d'autre. Ça peut être sur des aspects marketing, sur comment est-ce que vous voulez aborder votre cible. Ça peut être une recherche d'associés, ça peut être sur tous ces segments-là. Et l'idée, c'est de pouvoir vous faire challenger la start-up depuis n'importe où, n'importe quand. C'est pour ça que ça peut graviter autour des missions d'un incubateur. Aujourd'hui, c'est au stade d'idéation, je suis en entrée de création. Mais en termes d'application, il y a certains incubateurs qui ont déjà soufflé l'idée de faire ce qu'on pourrait appeler une pré-incubation, ce qui serait un mélange de candidature et d'exercice en même temps, pour pouvoir aussi tester la validité d'une idée et aussi observer les porteurs de projets qui sont au moins plus importants que l'idée en elle-même. Je suis arrivé à la Sarlatech après 3 mois de pré-incubation justement avec la French Tech à Bordeaux, qui m'ont aiguillé vers la French Tech du Périgord avec Nathalie Aéro, qui m'a aiguillé vers Rebecca Dain, qui m'aiguille vers vous aujourd'hui. Et je suis arrivé il y a 6 mois dans le Périgord, donc tout peut se passer très vite. Et je viens de la région lyonnaise et je pense que vous n'avez rien à envier avec la Sarlatech et ce qui se fait dans le 60. Aujourd'hui, on est plus sur l'intelligence collective, comme si vous utilisiez Internet dans n'importe quelle autre utilité. L'idée, c'est aussi d'essayer d'avoir au-dessus de son épaule un peu d'intelligence artificielle à une certaine mesure. Par exemple, les porteurs de projets que je vais chercher moi-même de manière organique pour qu'ils soient présents sur cette plateforme, parce que ça peut répondre à une de leurs problématiques ou à une de leurs interrogations plutôt, parce qu'ils n'ont pas encore validé l'hypothèse, est-elle une réelle problématique ou pas, je vais chercher les professionnels qui sont pertinents par rapport à leurs recherches aujourd'hui. À Bordeaux, du coup, j'avais rencontré plein de porteurs de projets. C'était un peu un premier laboratoire, un premier test pour moi que de parler de cette idée-là. Donc c'est ouvert à tout public. Technologique et l'innovation.
Vous jouez un rôle de modérateur dans les projets qui arrivent,
Ouais. Surtout dans l'aspect feedback, parce que, par exemple, Cyril, qui est sur une grosse compétence numérique, pourrait éventuellement être amené à challenger un projet qui serait lui-même numérique. Si Cyril venait à mettre un commentaire qui n'était pas du tout pertinent et peut-être hors propos, il y a quand même de la modération dessus.
La plateforme, elle est déjà mise en ligne. Enfin, je veux dire, on peut déjà y accéder en tant que start-up.
PitchMe.tv, ouais. C'est tous des particuliers. Ils viennent s'inscrire en tant que particuliers, sauf les incubateurs et certains investisseurs qui veulent venir sous groupement, comme France Business Angel, etc., qui peuvent parfois venir, pas de manière anonyme, mais c'est un public qui tient à garder une certaine distance par rapport à qui peut regarder les projets. Et sinon, après, les professionnels participent en particulier. Je sais que j'ai 2 incubateurs, j'ai 1 investisseur, qui est une de mes cibles d'early adopters, ce sont plutôt des business angels qui sont à la retraite, parce qu'ils ont le temps, et ils essaient encore de rester au bout du jour par rapport aux projets qui émergent, parce qu'une fois à la retraite, ils n'ont plus cet apport d'affaires qui se fait de manière un peu informelle dans les rencontres. Donc eux sont très demandeurs, pour le coup. Très facilement activable, parce que ça reste une société numérique, donc il faut quand même activer les utilisateurs. Et après, les porteurs de projets, c'est un peu un laboratoire géant, parce que il y en a qui vont s'attarder sur l'idée, il y en a qui vont s'attarder sur qui donne l'idée, et ça crée un peu de certaines émulations autour de ce qu'on recherche, de ce qu'on obtient, de ce qu'on interprète, etc. Et ça permet d'être quand même dans le vrai, parce que on va dire que le concurrent, ou en tout cas la solution alternative numéro 1 à PitchMe, c'est d'être dans des réseaux d'affaires, ou en tout cas dans ce qu'on appelle des moments de networking, où là on se fait challenger la start-up, c'est-à-dire qu'on pitch comme on est en train de le faire, et on a plein de questions, et plus les questions avancent, plus on arrive sur des points de douleur, et plus les points de douleur arrivent tôt, et plus on est capable d'anticiper, ou de savoir si ça va être une hypothèse qui va être un caillou dans la chaussure, ou plutôt un accélérateur. Il y a des services aujourd'hui qui proposent des annuaires d'investisseurs. Et au contraire, là, c'est porteur de projet qui est plus que ça aujourd'hui, hein, les fondateurs d'une entreprise qui va aller chercher une mise en relation pour entrer dans des principes de levée de fonds. Là où PitchMe est plus dans l'idéation, la conceptualisation et dans valider son idée de manière générale. Il y a des startups qui ont au moins, enfin, j'en ai l'exemple, qui ont au moins 3 ans d'expérience, qui ont déjà des fonds qui ont été apportés par des family office, etc., qui ont un super produit technologique qui fait gagner de l'argent dès les premières secondes aux clients à qui ils l'adressent et qui ont un mal fou en fait à le commercialiser parce que j'imagine, quand je prêche un peu pour ma paroisse, que dans le pitch, dans l'exercice du pitch, ils appuient pas au bon endroit. Là où ils auraient peut-être pu confronter en fait leur idée, leur conceptualisation à des experts dans un domaine qui leur aurait donné la proposition de valeur unique et claire qui leur ferait gagner un temps dingue sur la commercialisation. Par exemple, donc des schémas, il y en a plein possibles dans l'évolution d'une idée. C'est une plateforme qu'on appelle multifacette, donc aujourd'hui, dessus, il y a des investisseurs, des professionnels, des porteurs de projets, etc. Donc j'en ai activé aucun pour l'instant, à part un produit qui appelle l'intelligence artificielle, d'ailleurs, qui a fait un peu les premiers euros de chiffre d'affaires de l'entreprise, mais Mais c'était anecdotique, mais pour l'instant, pas de business model validé ou même activé pour l'instant.
Donc, bah, bonjour à tous, je suis Julien, un des cofondateurs de l'entreprise B2G. Le deuxième s'appelle Sergio, on est basé à Saint-Geniès, je pense. Et donc, en effet, on propose des solutions de réducteurs, qu'on appelle, donc des boîtiers avec des pignons à l'intérieur, pour vulgariser, pour des opérations de rétrofit de véhicules, donc des conversions de véhicules thermiques vers l'électrique. Donc nous, on s'est créé il y a maintenant 3 ans et un peu plus, c'était en octobre 2020, la bonne période du Covid. Et on est en pleine accélération parce que après toute cette période de Covid et de latence un peu, notamment sur des composants, etc., etc., le projet arrive à maturité et sur pas mal de sujets, on a des choses qui arrivent à se concrétiser. Donc avec une première homologation de véhicules chez un client qui adresse le marché de monsieur et madame tout le monde, mi-novembre 2023, et donc des débuts de production en série de nos solutions qui sont en train de se mettre en place. Ce projet nous aide, donc nous, à nous développer, vont nous aider à accélérer, et avec ça, on va pouvoir développer une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Grive, avec pour but de devenir le premier fabricant mondial de réducteurs dédié à l'électrification de véhicules existants. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. La France a pour une fois eu de bonnes idées en créant un cadre légal autour de ces projets de conversion et avec pour but de faciliter en fait l'industrialisation. Et donc aujourd'hui, pas mal de pays européens, voire la communauté européenne, est en train de regarder ce qui s'est fait en France pour essayer de le dupliquer. Donc ça donne pour nous des perspectives assez immenses. La création de cette gamme permettra de structurer une offre cohérente par rapport aux besoins du marché, permettra de que ce soit en termes techniques, mais aussi en termes de coûts, en termes de gestion de stock, etc. Et donc l'incubation est venue à point nommé, après une première incubation l'année dernière dans le groupe Renault sur le site de Flins, en région parisienne, qui a été surtout structurante autour de l'aspect économie circulaire, lien avec un grand groupe, etc. Mais n'a pas été structurante dans la gestion stratégique, on va dire, de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ça fait du sens d'intégrer l'incubateur pour justement travailler sur ces points-là. Et quand je parle de structuration stratégique, je parle de recrutement, je parle de fonds, en effet, levée de fonds, je parle de plein de sujets qui sont inhérents à l'évolution de l'entreprise. Aujourd'hui, on n'est que tous les deux et on espère être rapidement beaucoup plus dans les mois à venir, on va dire. Les 2 ans ont été assez longs pour nous parce que, au final, on a développé plein de prototypes. Mais chacun était soumis à des notions d'homologation, de certification, que chacun de nos clients pensait que ça allait se faire facilement. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, voilà, il y en a encore qui sont en train d'être homologués. Mais les premiers arrivent à sortir enfin avec le tampon. Celui qui nous porte vraiment aujourd'hui, qui est leur moto, ça part sur la location, le modèle économique. Mais en fait, il y a d'autres choses qui sortent aujourd'hui sur des véhicules moins standards, entre guillemets. Donc ça va être ce qu'on appelle nous du off-road, en dehors de la route en gros. Et où là, c'est ces solutions qui sont vendues clé en main aux clients finaux. Et nous, on vient s'insérer comme étant un équipementier, en gros, dans cette solution-là. Donc là, on parle de bateau. On va être sur un des bateaux qui sera sur la cérémonie d'ouverture des JO. Rétrofité, on est sur des bateaux du lac d'Annecy qui servent à faire les croisières ou les transports autour du lac. On est sur des machines d'entretien de voies ferrées, on est sur des poids lourds de parcs logistiques fermés, on est sur ce genre de choses. Donc en fait, l'éventail de solutions finales, il est très très large. Tout type de moteur électrique, c'est l'avantage de notre solution, c'est qu'elle se veut standardisée, mais avec des adaptations en fonction des besoins clients, parce que bien sûr, chaque client arrive avec son moteur qu'il a déjà déterminé, pas sur du moteur électrique, mais l'origine, c'est soit essence, soit gasoil, soit le porte. Le but est de rester 100% Périgord noir. Le B de B2G signifie black et pour l'identité Périgord noir. Aujourd'hui, notre modèle économique est basé sur la fabrication en sous-traitance, donc on n'a pas de machine d'usinage sur place, donc on n'a pas un besoin de local immense. Un qui travaille beaucoup pour nous, qui est à Terrasson. On essaye d'en faire travailler un autre qui est à Bergerac, mais c'est plus compliqué. Et après, pour le cœur du réducteur, qui sont des il n'y a rien dans les coins, donc c'est un sous-traitant qui est basé à Angers, qui n'est pas non plus très très loin. Et après, on a un autre, lui, il sera vite limité en termes de capacité de production, et le projet après, c'est d'aller côté Pays Basque, où là, il y a un vrai savoir-faire et de vrais équipements adaptés aux besoins futurs. On essaye au maximum de rester en local, mais malheureusement, il n'y a pas toutes les compétences. Donc c'est un enjeu à terme, est-ce qu'on internalisera plus de production ou pas, on se posera la question quand ce sera...
Comme je le disais, PitchMe, ça me permet d'observer tous les publics et toutes les audiences qui pourraient graviter sur la plateforme, de voir un peu leurs utilisations. Et aujourd'hui, avec Anthony d'Unitech, qui est l'homologue de Cyril, et avec Cyril ici à Sarlatech, c'est de travailler sur une offre entreprise qui aujourd'hui pourrait donc j'utilise le conditionnel parce que je suis en étude de marché, être ce qu'on appelle un gestionnaire de portefeuille de start-up. Ce serait l'équivalent du CRM chez les commerciaux pour les start-up managers chez les incubateurs. Pour piloter l'innovation depuis la candidature jusqu'à ce que ça devienne une licorne, valoriser un milliard d'euros. Ça pourrait ressembler à ça.
Pour nous, l'incubation, on l'a vu déjà premièrement comme une structure, en fait, à structurer notre déploiement commercial au niveau local et garder en fait cette vision donc locale, régionale. Le projet jusqu'à présent, il avait été très soutenu par le conseil départemental de la Dordogne, par la région Nouvelle-Aquitaine, et c'est aussi grâce à ça en fait qu'il a pu évoluer dans le bon sens. On sait aujourd'hui qu'avec Sarlatech et Unitech, en fait, on peut aussi avoir ce soutien et cet accompagnement au quotidien, sans avoir besoin d'aller s'expatrier à l'autre bout de la France, de monter à Paris. En fait, aujourd'hui, on peut avoir à un niveau local le même accompagnement. Également des bureaux pour recevoir nos clients. C'est important en fait d'avoir aujourd'hui des entités, même avec la French Tech, que ce soit Périgord, Bordeaux. Ça nous permet en fait d'avoir une structure en fait où on est un peu visible un petit peu partout. Un réseau aujourd'hui, cette incubation, c'est aussi d'avoir ce réseau qui est très très fort et qui se développe en fait de jour en jour. Et également la possibilité d'avoir des subventions, c'est-à-dire d'avoir un réseau qui nous aide justement à monter le projet de manière intelligente et de faire grossir l'entreprise aussi de manière pondérée.
Avec une visibilité plus forte.
Oui.
Alors les premiers retours qui ont été faits, tout le monde dit on peut faire toujours plus grand au départ, mais bon, au départ il faut beaucoup d'argent. Il faut l'avoir quand on l'a pas, on fait français, mais français on a déjà un très gros marché, on va démarrer comme ça. Après c'est pas très grave si on n'a pas un brevet mondial. On est quand même sur d'autres ID en cours qui sont soutenus actuellement par BP France aussi. Et il y en a même encore qui ne sont pas sortis, mais bon. J'avais fait mon premier dossier, je sais plus, en 2021, je pense que ça avait été géré par la région avec M. Rousset. Et après ça a été restructuré différemment l'année dernière, en 2023. Ils ont rouvert un système d'appel à projet. En avril 23, et où ça permet de raccourcir le temps d'obtention de l'aide. Enfin, de l'aide, pas en tant que telle, mais de la décision.
De la décision,
parce qu'avant, il fallait vous déposer au 1er janvier, vous aviez une décision au 31 décembre. Mmh. Vous étiez au 15 octobre, vous l'aviez au 31 décembre. Donc là, c'est fait au fil de l'eau, mois par mois, une réunion. Et donc, vous avez votre accord ou vous ne l'avez pas. 30 jours, c'est bien, quoi.
Donc, il y a ça qui est en cours. Il y a une partie qui est prise en charge pour faire de la recherche et développement, donc pour continuer. Donc là-dessus, on espère pouvoir apposer un autre brevet et qui, là, à ce moment-là, viendra encore resserrer, l'innovation et où on pourra le déposer au niveau européen ou mondial. Parce qu'on espère bien, à ce moment-là, avoir les fonds pour le faire. L'idée, nous, elle est déjà de développer une région, de développer un pays, développer dans d'autres pays.
C'est sûr qu'il y a des gens qui vont venir nous voir, forcément.
On a réfléchi à un système même de franchise, en fait.
Ça a été une expérience enrichissante. La notion de communauté, comme tu disais, Justin, elle est hyper importante. Donc on était au milieu de... On était 14 startups en tout, incubées. Donc on a pu voir, échanger sur plein de sujets entre nous, déjà. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et au final, ce qui était hyper positif, c'est ce qu'on appelait les sessions de co-développement. Donc on posait des sujets sur la table qu'on avait, nous, et tout le monde proposait des solutions. Ça, c'était hyper constructif. Ce qui était intéressant, c'est que c'était porté par un groupe qui était Renault et qui, à terme, ça a permis de créer des relations commerciales sur un autre pan de l'activité de leur entreprise, qui n'est pas le rétrofit. On a été incubé sur le sujet du rétrofit, mais au final, on n'a pas développé de solution au rétrofit avec eux parce qu'ils sont en train de rétro-pédaler sur la solution, donc ça n'ira pas plus loin, pour l'instant en tout cas. Mais sur des solutions de maintenance de réducteurs qu'on propose aussi. Donc aujourd'hui, on est fournisseur et on est en train de faire tout ce qu'il faut pour être en un chez eux, en fait, sur la solution qu'on propose. Donc au final, il y avait de l'intérêt commercial, il y avait de l'intérêt communautaire, mais il n'y avait pas d'intérêt sur l'aspect structuration de l'entreprise parce que on était 14 projets à des stades de maturité totalement différents. Et donc nous qui avions des sujets de chiffre d'affaires, de clients, etc., d'autres avaient des sujets un peu antécréation. Et donc les ateliers n'étaient pas forcément cohérents par rapport à ça. Et donc ce qui va être positif, je pense, avec Sarlatech et Unitech, c'est qu'on est que trois. Même si on est à des stades différents, on peut adapter le programme, je pense, un peu plus facilement à chacun, à nos enjeux. Et on voit que Anthony et Cyril, on se découvre, mais je pense que ce sera pareil. On voit que nos sujets sont traités en individuel et peu importe en fait le stade où on en est, on trouvera des solutions. Donc il y a un programme commun, malgré tout on essaie de suivre. Mais à côté, il y a des choses un peu plus dédiées
Et ça, en ça, ça va vous faire gagner du temps à tous.
Concrètement, comment on se passe l'incubation ?
Julien a mis le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a des niveaux de maturité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on discute, qu'on échange. Quand j'ai échangé avec André, bientôt avec Carole, avec Justin et Julien, on n'est pas du tout au même niveau. Alors déjà, il y a la particularité liée à l'offre technologique, complètement différente. Vous avez un panel, hein. On passe d'une plateforme SaaS à une solution en lien avec le développement durable, à une solution plutôt mécanique, automobile, au sens large du terme. Donc déjà, ça, il faut appréhender aussi ces différents secteurs. Moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de chacun des secteurs. Néanmoins, ils ont des points communs tous. À un moment donné, il faut structurer une offre, il faut cibler. Très important de cibler pour qui, derrière l'offre, elle est dirigée. Avoir une bonne idée, la mettre en œuvre, la développer, c'est très bien, mais la modéliser, c'est très important. Ça a été une de vos questions par rapport au projet de Justin. Mm-hmm. Quel est son modèle économique derrière ? Ça va être un des gros enjeux de savoir exactement comment derrière il veut financer sa solution et en vivre. Donc en fait, le rôle après de l'incubateur, c'est de prendre en considération toutes ces problématiques-là, toujours en gardant à l'esprit le niveau de maturité, parce qu'on ne va pas s'adresser de la même manière, on ne va pas mettre les efforts au même endroit, au même moment. En fonction du niveau de maturité du projet, Julien est extrêmement avancé puisque lui commercialise déjà sa solution avec son associé. Il a déjà un marché important, il a déjà fait une grosse démarche de prospection également puisque c'est son quotidien. Dans leur répartition entre associés, il a plus le pan direction commerciale et relations clients et moins de production. Donc l'incubateur, et moi en l'occurrence c'est Anthony, côté Unitech, on doit prendre en compte tout ça pour pas venir les polluer sur des sujets qui seraient déjà potentiellement réglés, remplis. Hein, on va pas mettre les efforts aux mêmes endroits et au même moment. Et donc après, à nous de faire preuve d'une grande écoute. C'est vraiment l'écoute qui est très important. Écouter vers où ils veulent aller, comment ils veulent y aller. Et après, nous, avec notre vision extérieure et nos différentes compétences, moi j'ai la chance d'avoir un gros background sur la partie digitale et numérique de quinzaine d'années dans ces domaines-là pour des grands groupes et des grandes structures et des moyennes structures également, et sur des axes de domaines métiers différents. Marketing, la communication, on parlait de CRM tout à l'heure, donc il y a des plateformes de relations clients, la logique analyse de marché, études de marché, autres. Voilà, moi j'ai un spectre extrêmement large, et à moi ensuite de donner les bonnes pistes, les bonnes préconisations, de voir aussi s'il y a une bonne adhésion. L'objectif, c'est qu'on adhère ensemble. C'est une équipe, c'est du gagnant-gagnant, clairement. Et ensuite, de faire des points réguliers et de voir comment on avance pour atteindre un objectif. L'objectif, c'est pas de discuter, d'échanger, de faire des préconisations pour rien atteindre. C'est un match qu'on joue, il faut le gagner. Donc, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on est sur un modèle hybride. Comme vous l'avez compris, il y a Unitech, qui est un acteur très important, avec Anthony, hein, le Bliss, qui est sur place. Donc, lui, il va porter une vision liée à l'Unitech, et avec un plan de formation associé qui donne lieu à des sessions de formation qui sont plutôt en mode plénière avec d'autres startups. Donc là, on retrouve la particularité de différentes technologies, différentes offres et différents niveaux de maturité. Un domaine en particulier va être abordé, le juridique, l'offre commerciale, la levée de fonds, voilà, tous ces aspects. Et ensuite, avec Anthony, on va nous arriver plus sur un accompagnement dit individualisé. L'objectif étant pour moi de ne pas venir court-circuiter les axes qu'il développe avec chacun d'entre eux et inversement qu'il ne vienne pas lui-même court-circuiter d'autres axes qui ne seraient un peu moins couverts parce que ce n'est pas dans la logique du plan de formation, dans la stratégie définie avec Unitech. Voilà, donc on a mis en place des points réguliers à minima une fois par semaine pour faire des points de synchro qui vont en fait se cadencer en fonction de l'avancement de chacun. Il y a un point qui est très important qu'il ne faut pas quand même occulter, c'est que chacun d'entre eux ont des activités ou sont en activité. Si je prends l'exemple de Julien, c'est un chef d'entreprise. Il doit faire quand même marcher sa boîte. Je le redis, elle est quand même en activité. Donc mon rôle, c'est de m'adapter à son planning à lui et à sa disponibilité. Ce n'est pas l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que moi je le mette en difficulté sur son quotidien et sa vie d'entreprise à lui. Ce n'est pas du tout le but. Donc ensuite, c'est un niveau de curseur à positionner. Peut-être qu'avec Justin qui est au préambule, on va dire, qui est au tout départ, puisqu'il vous l'a dit, il est sur la logique d'études de marché, on va peut-être être un peu plus en échange les premières semaines, les premiers mois. Peut-être qu'on fera plus de points de synchro. Moi, je tiens quand même à ce qu'on se voit physiquement. Parce que c'est l'humain dans tout ça, quand même. Et un incubateur, et Sarlatec en premier lieu, c'est, comme l'a dit Benoît au tout départ, c'est un lieu d'échange, de créativité, d'échange et de prise d'initiative. Et donc il n'y a pas d'intérêt réel à passer nos points de synchro, nos réunions, à les faire en visioconférence. Et Justin ou Julien et Carole et André vivraient aux quatre coins de la France. C'est pas ce qu'on veut. C'est une émulation pour le territoire et ça doit passer aussi par des échanges humains. On co-construit ensemble.
Il n'y avait pas de critères de localisation déjà sur l'appel à projet. On l'a ouvert à toute entreprise. L'idée, c'était quand même que les entreprises puissent venir bénéficier sur place à Sarlatec de l'accompagnement et de pouvoir prendre un espace professionnel ici. On a eu 4 dossiers de candidature, donc retenu 3.
Le jury s'est fait en lien avec Unitec.
Voilà.
Sur présentation du dossier, de l'intérêt qu'on pouvait y trouver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a, dans cette incubation avec Unitec, il y a encore une place qui est disponible.
D'accord.
Puisqu'en fait, ça, c'est financé par la communauté de communes Sarlat-Périgord Nord. C'est nous qui finançons cette incubation par Unitec pour les startups qui sont ici. Et on a une convention avec eux pour 4 places par promotion.
D'accord.
Qu'on peut prendre au FIBO, c'est un accord qu'on a passé avec Unitec. On avait un quatrième candidat qu'on a essayé de pas retenir pour des critères géographiques et puis de présentation du dossier qui ne nous convenait pas. On doit être à 4000 euros par parcours d'incubation pour un an, par entreprise. Ça, c'est tout l'accompagnement qui est fait par Unitec, à la fois les formations dont Cyril nous a parlé tout à l'heure, en visio, plus les déplacements une fois par mois. En plus, nous, de financer ce parcours d'incubation avec Unitec, on met également à disposition nos deux chefs de projet, Rebecca et Cyril, mais vous avez bien compris qu'effectivement, c'est plus Cyril qui est dans le suivi de nos startups. C'est compris dans le package global.
C'est renouvelable chaque année. Il y a des entreprises, en fonction de leur maturité, comme disait Cyril, l'accompagnement peut être renouvelable.
Là, après, ils sont rentrés dans le parcours avec Unitec. Nous, on ne s'interdit pas, à côté de ce parcours avec Unitec, aussi de développer, si on est propre à Sarlatec, on commence juste, donc il faut qu'on fasse nos preuves aussi, mais en tout cas, d'accompagner stratégiquement d'autres startups du territoire à côté de ce parcours avec Unitec. On est au service du développement économique du territoire. Et vous voyez qu'on n'est pas borné par des limites administratives, puisque sur les 3 entreprises qui sont incubées aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est sur le territoire de la communauté de communes Sarlat-Périgord. Là, on a besoin de ça. Aujourd'hui, en Dordogne, il y a un incubateur sur Périgueux, c'est H24, qui fait très bien son job. Nous, on estimait qu'il y avait besoin d'avoir quelque chose sur notre territoire. Et en plus, ça nous permet de faire de belles découvertes, à la fois avec les 3 entreprises qui sont là, mais on a aussi des gens qui commencent à nous contacter, qu'on n'a pas forcément identifiés. Soit des jeunes du territoire qui montent et développent leurs propres projets, soit des gens qui sont arrivés sur le territoire, qui ont des activités dans le domaine de l'innovation. Donc ça nous permet aussi petit à petit de créer vraiment un réseau hyper intéressant. Assez régulièrement, il y a des gens qui me contactent maintenant pour me dire « on est sur le territoire, on est intéressé ». Et tout ça, c'est le fruit de ces rencontres depuis qu'on a ouvert Sarlatec. Donc en fait, ça ne va faire qu'augmenter. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. C'est aussi pour nous une façon de trouver les petites pépites qui sont sur le territoire et qu'on ne connaît pas forcément.
L'idée, c'est aussi pouvoir les mettre en réseau avec tous ses partenaires et que la personne qui se pose une question, elle se dit « je vais passer à Sarlatec et je vais pousser la porte ». Moi, je ne vais peut-être pas lui donner la réponse, mais moi, je vais lui donner le bon contact pour qu'elle puisse avoir une réponse claire, précise et qualifiée.
C'est que Sarlatec, c'est un vieux projet, très vieux projet.